Et vous avez les deux livres de chants, le bleu dans lequel se trouvent les spontanés de notre liturgie cette saison, le premier est à la page 20, et le livre Nos cœurs te chantent pour les psaumes et cantiques annoncés, que j'annoncerai d'une part, et qui sont en plus affichés sur les côtés du temple. Père, nous te remercions pour ce temps mis à part dans notre course, ce temps de repos évidemment, aussi de méditation, de partage, de rencontre. Nous sommes unis, nous sommes réunis, pardon, pour nous rappeler que la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus, notre Sauveur. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, dit le Sauveur, je suis au milieu d'eux. Je vous invite à vous lever pour invoquer le nom du Seigneur avec le premier spontané, donc page 20. Je vous invite à poursuivre notre louange en chantant le psaume 25, les trois premières strophes. Psaume 25, les trois premières strophes. À toi, mon Dieu, mon cœur. Matthieu rapporte qu'un pharisien, docteur de la loi, posa cette question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et voici le second commandement, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. nous reconnaissons notre péché. Pardonne-nous, Seigneur, car comme l'apôtre Paul lui-même, nous faisons si souvent le mal que nous ne voulons pas faire, et nous ne faisons pas le bien que nous voudrions faire. Pardonne-nous nos silences quand il fallait parler. Pardonne-nous nos vaines paroles quand il fallait agir. Pardonne-nous d'avoir confondu ton évangile avec nos sagesses. Pardonne-nous d'avoir limité notre service à ceux qui nous plaisent. Pardonne-nous et aide-nous afin que nous apprenions chaque jour à mieux t'aimer et à aimer notre prochain. Amen. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume, chantons notre reconnaissance. Nous confessons la foi chrétienne avec notre confession de foi, celle de cette paroisse. Seigneur, nos confessions de foi sont toutes maladroites, incomplètes. Elles ne sont faites que de pauvres mots humains, mais elles constituent néanmoins un pas chancelant, forcément chancelant, vers ta vérité. Je crois en Dieu, notre Père, il est amour. Je crois en Jésus-Christ, notre Sauveur, il a souffert, il est mort. Présent dans nos vies, il nous pardonne. Il nous montre le chemin. Il est la lumière du monde. Son règne dépassera le temps. Malgré notre faiblesse, je crois qu'en Jésus-Christ, Dieu est l'espérance des hommes et l'homme est l'espérance de Dieu. Je crois en l'Esprit présent au monde et au cœur des hommes. L'Esprit donne la paix à toutes les femmes et à tous les hommes. L'Esprit de Dieu crée la vie et recrée le monde, le dynamise et le conduit vers son royaume. Je crois à la communion de tous dans la foi, l'espérance et l'amour. Je crois à l'amour plus fort que la mort. Je crois à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à écouter la lecture de trois textes bibliques. Tout d'abord, au livre du Lévitique, chapitre 19, versets 33 et 34. Quand un émigré viendra s'installer chez toi, dans votre pays, vous ne l'exploiterez pas. Cet émigré installé chez vous, vous le traiterez comme un compatriote, comme l'un de vous. Tu l'aimeras comme toi-même, car vous-même avez été des émigrés dans le pays d'Égypte. C'est moi, le Seigneur, votre Dieu. Puis, dans la Nouvelle Alliance, Évangile selon Matthieu, chapitre 23, versets 1 à 6, qui est un des textes recommandés ce jour. Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples. Les scribes et les pharisiens siègent dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils peuvent vous dire, mais ne vous réglez pas sur leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils lient de pesants fardeaux et les mettent sur les épaules des hommes, alors qu'eux-mêmes se refusent à les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour se faire remarquer des hommes. Ils élargissent leurs phylactères et allongent leurs franges. Ils aiment à occuper les premières places dans les dîners et les premiers sièges dans les synagogues. Troisième et dernière lecture, donc, dans l'Évangile selon Luc, chapitre 23, versets 26 à 47, qui fera l'objet de notre méditation. Je m'aperçois qu'au printemps dernier, je vous ai déjà lu un récit de la crucifixion, c'était celui de Jean, et c'est pour dire autre chose aujourd'hui. Et ça, c'est la version de Luc. Comme il l'emmenait, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui venait de la campagne, et ils le chargèrent de la croix pour la porter derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude du peuple, entre autres de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles et leur dit « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants, car voici venir des jours où on dira « Heureuses les femmes stériles et celles qui n'ont pas enfanté ni allaité. » Alors on se mettra à dire aux montagnes « Tombez sur nous » et aux collines « Cachez-nous. » Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, qu'en sera-t-il de l'arbre sec ? On en conduisait aussi d'autres, deux malfaiteurs, pour les exécuter avec lui. Arrivé au lieu dit le crâne, ils l'y crucifièrent, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'un à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et pour partager ses vêtements, ils tirèrent au sort. Le peuple restait là à regarder. Les chefs, eux, ricanaient. Ils disaient, « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquèrent de lui, s'approchant pour lui présenter du vinaigre. Ils dirent, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui, « C'est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'insultait, « N'es-tu pas le Messie ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre le reprit en disant, « Tu n'as même pas la crainte de Dieu, toi qui subis la même peine. Pour nous, c'est juste. Nous recevons ce que nos actes ont mérité, mais lui n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi, quand tu viendras comme moi. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » C'était déjà presque midi, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à 3 heures. Et le soleil ayant disparu, alors le voile du sanctuaire se déchira par le milieu. Jésus poussa un grand cri. Il dit, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et sur ces mots, il expira. Voyant ce qui s'était passé, le centurion rendit gloire à Dieu en disant, « Sûrement, cet homme était juste. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds. Guide-nous par ta parole. Aide-nous à la comprendre tant de siècles après, et qu'elle éclaire chaque jour de nos existences. » Je vous invite maintenant à vous lever pour chanter le cantique 266 en entier. Cantique 266, « Ô Jésus, mon frère !» nous prions. Oui, Seigneur, dans l'adversité, dans la détresse, tu es présent pour nous aimer, nous aider, pour nous faire entrevoir ton royaume et nous aider à l'accomplir ici, sur la terre que tu nous as donnée. Amen. À Antioche, nous apprend le livre des Actes, vers les années 40 de notre ère, on a vu arriver des réfugiés. C'étaient des Juifs, mais des Juifs étranges, des Juifs dissidents. Justement, ils fuyaient leur pays, la Judée, car ils étaient persécutés pour leurs opinions religieuses. Un des leurs, Étienne, venait d'être lapidé à Jérusalem. Il se réclamait d'un nommé Jésus de Nazareth, qui avait été crucifié et, disait-il, qui avait ressuscité. Et il disait aussi que c'était le Messie, le Christ. Vous savez que c'est le même mot, Messie en hébreu, Christ en grec. Entre eux, ils se dénommaient disciples ou frères et sœurs. Les habitants d'Antioche, pour les désigner, ont trouvé un sobriquet un peu méprisant, puisque ces gens-là suivaient un Christ, ils les ont appelés les chrétiens. Les membres de cette secte juive, car ce n'était encore que cela à l'époque, ont accepté l'appellation. Ils se sont répandus à travers le monde. C'est une autre histoire. Donc nous sommes des chrétiens. Enfin, pardon, vous êtes dans un lieu de culte chrétien. Et ces chrétiens, ils ont élaboré un livre saint, le Nouveau Testament. Excusez-moi de ces banalités, mais c'est juste pour fixer le cadre. Ce livre contient entre autres quatre récits des paroles et des actions de Jésus de Nazareth. Récits qu'on appelle les évangiles. Comme vous le savez, évangile, c'est un mot grec qui signifie bonne nouvelle. La bonne nouvelle en question, c'est l'annonce du salut et de la grâce par Jésus. Je vous l'ai rappelé au tout début du culte, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu. C'est le point de départ de notre liturgie. Mais ces quatre récits, ces quatre bonnes nouvelles, se concluent pas tout à fait, c'est avant la fin. Il y a un moment fort, particulièrement frappant, la mort de Jésus sur la croix. En quoi est-ce que cela peut constituer une bonne nouvelle? C'est ce que nous allons essayer de voir ce matin. Je vais d'abord vous parler de la crucifixion en soi, puis de quelques interprétations, en commençant par celle que je trouve moins convaincante, et dans une troisième partie, celle que je... au pluriel, les hypothèses, que je trouve plus convaincante. La crucifixion elle-même, donc. Il n'a jamais été prétendu que Jésus serait immortel. Même s'il est l'incarnation de Dieu, descendu sur terre, dans cette vision un peu trinitaire, il est clair que l'enveloppe charnelle devait bien disparaître un jour. Mais il a été crucifié, donc, jeune, au cours de son ministère terrestre. Et la crucifixion, ce n'est pas une mince affaire. C'est d'abord une mort infamante, comme on disait dans notre vieux code, réservée aux pires scélérats, aux gens qui ne sont rien. Spartacus, ces gladiateurs révoltés, ont subi le même sort, crucifiés, 100 ans plus tôt, 101 ans peut-être, en 71 avant Jésus-Christ pour être précis. Et c'est une mort atroce, longue et douloureuse. Le supplicié meurt de suffocation, car la position des bras et des épaules l'empêche de respirer, et donc il se hausse sur les pieds pour ouvrir ses poumons. Ses pieds sont cloués. Il donc souffre une douleur terrible pour pouvoir respirer, et il ne peut rester très longtemps dans cette position. Il redescend, suffoque à nouveau, remonte et se blesse les pieds. Ça dure des heures, voire des jours. Jésus, lui, a dû mourir assez vite. Jean nous rapporte que lorsqu'on a voulu abréger les souffrances, enfin augmenter et abréger les souffrances des trois crucifiés à l'approche de la fête de Pâques, de Pessa, on a brisé les jambes des deux brigands, puisqu'en effet, il ne peut plus pousser sur les jambes, donc il suffoque et meurt plus vite. C'était une époque rude. Mais Jean nous dit que Jésus était déjà mort et on ne lui a pas brisé les jambes. Les évangiles sont moins précis que je viens de l'être sur ce déroulement. À l'époque, tout le monde était au courant des détails atroces de la crucifixion. On n'avait pas besoin de le dire. On n'avait pas besoin du film de Mel Gibson, La Passion du Christ. Je me suis permis de décrire ce processus pour souligner le caractère exceptionnel, choquant, de la mort de Jésus. Il n'est pas mort dans son lit, entouré de l'affection des siens, à l'âge de 100 ans, comme Daniel Darieux. Ce fait dramatique est peut-être le seul fait avéré concernant le Jésus historique. Monsieur Jésus, avait dit un jour Laurent Gagnebin ici même, pour parler du Jésus historique. Il a été crucifié vers l'an 30, sur ordre de Ponce Pilate. On en est sûr, c'est tout. Le reste, date de naissance, lieu de naissance, les paroles, les miracles, ça est parfois sujet à discussion. Les historiens expliquent en quoi Jésus gênait les occupants romains et les autorités du temple de Jérusalem. Pourquoi donc il fallait qu'il meure? Mais nous, pouvons-nous donner un sens plus théologique, plus philosophique à cette mauvaise nouvelle? Cette victoire de la méchanceté des hommes qui ont voulu faire taire la voix du porteur de la bonne nouvelle. En quoi Jésus est-il mort pour nous, comme le dit Paul notamment. Depuis 2000 ans, évidemment, il y a eu beaucoup d'explications proposées. Je vous propose d'en passer en vue quelques-unes. D'abord, les plus traditionnelles, les moins convaincantes à mon avis, et puis ensuite nous verrons celles qui peuvent être retenues peut-être. Donc, les analyses traditionnelles. La première, qui connut un grand succès, qui subsiste encore d'ailleurs, est celle du sacrifice pour racheter l'humanité aux yeux de Dieu. Il faut à Dieu une compensation pour racheter les péchés des hommes. Il faut que les pécheurs paient le prix du sang. Et Jésus paie ce prix avec son propre sang pour nous sauver en mourant à notre place. Sa vie ayant une valeur infinie, le prix payé est lui-même infini et suffit à sauver tous les hommes. Dieu ainsi est satisfait par la mort de son Fils. Sa colère est apaisée. Ce raisonnement, on en trouve trace dans la liturgie, dans certains cantiques. Vous connaissez tous sans doute, je suppose, Minuit chrétien, de son père apaisé le courroux. C'est le thème d'un très beau film que je vous recommande, Barabbas, avec Anthony Quinn, où Barabbas, donc c'est la vie de Barabbas après la crucifixion, entendu, pendant 34 ans, puisque le film se termine lors de l'incendie de Rome, pendant 34 ans, cherche à savoir qui est ce Jésus qui est mort à sa place. Je le dirais franchement, c'est inacceptable. Le pasteur Marshall, qui a longtemps prêché à l'endroit où je me tiens, ici même, disait « Un Dieu qui se comporterait ainsi ne mériterait même pas le titre d'honnête homme. Si Dieu veut nous sauver, il n'a pas besoin de cette rançon sanglante. Il le fait par amour pour nous. C'est ça la grâce. » Et la grâce signifie que c'est gratuit, sans échange, sans rançon, sans sacrifice. On trouverait sans doute dans la Bible quelques arguments de texte soutenant cette analyse. Premier épître de Jean, je crois, il parle de Jésus comme victime expiatoire. C'est pourtant en contradiction avec un autre passage de la Bible qui est bien connu. Dans la Genèse, Dieu arrête le bras d'Abraham lorsqu'il s'apprête à immoler son fils Isaac. Dieu peut-il faire ce qu'il a empêché Abraham d'accomplir, tuer son propre fils? Plus rationnel peut-être, il y a la théorie du bouc émissaire. Jésus, l'agneau de Dieu, ôte les péchés du monde et les emporte dans la tombe. Bon, c'est un peu la même chose. Et puis il y a le problème de traduction. Ésaïe, qui n'a pas connu Jésus, mais qui parle de l'agneau de Dieu, et Jean ne disent pas que l'agneau de Dieu ôte les péchés du monde. Ils disent qu'il les porte. Jésus a supporté la méchanceté et la bêtise du monde pour accomplir son ministère. Il les a subis, il ne les a pas ôtés. On a aussi pu dire que tout compte fait, la mort de Jésus en soi n'avait aucun sens. Elle ne se comprend que par la suite, par la résurrection. D'un mal, une erreur judiciaire, Dieu a fait un bien. Il y a un parallèle avec la fin de la Genèse et les aventures de Joseph qui a été livré en esclavage par ses frères et qui, grâce à cela, est devenu vizir de Pharaon. Nous ne serions alors pas sauvés par la mort de Jésus, mais malgré elle. Toutefois, Jésus est bel et bien mort, dans un premier temps. Faut-il admettre que son supplice n'est qu'un épisode un peu malheureux, un accident, ou pire, une action voulue par Dieu pour qu'il puisse l'effacer par la résurrection et prouver son pouvoir? On en revient à cette vision contestable d'un Dieu qui jouerait cruellement avec les hommes et avec son Fils unique, uniquement pour démontrer à quel point il est puissant. Je vous propose maintenant quelques visions un peu plus positives, à mon point de vue. La mort de Jésus peut être aussi un témoignage d'amour, d'amour pour nous. Lors du procès, face à Pilate, Jésus ne se défend pas, ou mal. « Tu es donc roi ?» demande le procurateur, et Jésus de répondre « C'est toi qui le dis, je suis roi. » Je vous déconseille ce système de défense devant un tribunal correctionnel. Il y a donc bien là un sacrifice. Toujours, c'est un sacrifice, mais un autre sacrifice que tout à l'heure. Jésus accepte sa condamnation, mais ce n'est pas pour acheter le pardon de Dieu. C'est un sacrifice qu'il nous offre à nous pour nous convaincre. Jésus savait qu'il devait affronter la méchanceté du monde, et il l'a accepté pour accomplir son destin jusqu'au bout, sans se renier, sans renier sa foi, sa mission. C'est un exemple. Il aurait pu mentir devant Pilate, sauver sa vie, dire qu'il n'avait aucune ambition royale. Il a précisé « Ma royauté n'est pas de ce monde ». C'est une nuance qui a dû échapper au procurateur. Jésus a eu raison de ne pas mentir. Sans sa mort, son message, nous serait-il parvenu? On trouve aussi une interprétation qu'on pourrait dire psychologique. En acceptant le supplice, Jésus met en pratique son évangile. Il nous a appris qu'il y avait plus que la vie physique et le confort matériel. Ne disait-il pas « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme » C'est dans Matthieu. Au-delà du corps, il y a une part de nous, éternelle peut-être, en tout cas supérieure. L'essentiel, c'est d'aimer, donner, servir. Nous pouvons donner notre vie pour les autres. Jésus a dû choisir entre sa propre vie physique et le sens de sa vie. Il a choisi le sens, appliquant ainsi son propre enseignement et le validant à nos yeux. On connaît quand même beaucoup de gens qui prêchent une chose et font le contraire, il suffit de lire l'actualité, et j'ai rappelé tout à l'heure que Jésus avait dénoncé cette attitude hypocrite dans le texte de Matthieu. Il y a aussi ce que l'on appelle la théologie de la croix. Dieu s'incarne en Jésus et descend parmi les hommes jusqu'à subir l'ignominie et la torture. C'est une vision de Dieu qui est pleine d'humilité, de chaleur. Dieu vient partager nos souffrances. Elie Wiesel rapporte une anecdote en ce sens, qu'il a vécu dans un camp de concentration. Les prisonniers assistent à la pendaison de 3 condamnés, dont un enfant qui mettra plusieurs heures à mourir. Derrière Wiesel, une voix se fait entendre. « Où donc est ton Dieu ?» Et l'auteur continue. Je sentais en moi une voix qui répondait « Il est ici, suspendu à cette potence. » Au terme de ce petit catalogue, et avant de conclure, je voudrais faire une remarque un peu personnelle. Lorsque j'ai retrouvé, il y a une vingtaine d'années, le chemin de cette paroisse où je venais évidemment assez souvent adolescent, je cherchais sans doute des réponses. J'étais naïf. Ici, il n'y a pas de réponse toute faite, pas de dogme stérile. Nous n'avons pas ça en magasin. Et j'ai trouvé mieux que des réponses. J'ai trouvé des questions. Je vous en ai posé une ce matin. En quoi peut-on dire que Jésus est mort pour nous? Je vous ai exposé quelques réponses variables, très différentes. Il me semble toutefois qu'elles tournent toutes, même les plus abracadabrantesques, autour de l'idée de l'amour de Dieu pour nous, ses créatures, et de Jésus pour nous, ses frères et ses sœurs. Cet amour, puisqu'il vient de Dieu, est absolu, inconditionnel, gratuit, sinon il ne serait pas divin. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Mais cet amour de Dieu, qu'en faisons-nous ? Il faut que nous le transférions, le transmettions, le reportions envers notre prochain, tous nos prochains, même ceux qui ne semblent pas le mériter, et même ceux qui ne le méritent en effet pas. Et le transmettre, forcément, tel quel, tel que nous l'avons reçu, absolu, inconditionnel, gratuit. Car Dieu n'intervient pas directement dans les affaires des hommes. C'est nous qui devons porter son amour vers les autres. Nous ne sommes évidemment pas aussi forts que Dieu, que Jésus. Aimez vos ennemis, a dit Jésus. Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font, dit-il, de ceux qui sont en train de le torturer. Tendez l'autre joue. Un tel amour exige de nous un effort considérable, parce que comment aimer un serial killer, un terroriste, un dictateur sanguinaire? C'est un gros effort que Dieu nous demande. Si nous y arrivons, ne serait-ce qu'un moment, ça, ce sera une bonne nouvelle, une excellente nouvelle, une merveilleuse nouvelle. Amen. Voici le temps des annonces relatives à la vie de la paroisse. Alors, une annonce tardive, nous sommes le premier dimanche du mois, donc il fallait apporter des vêtements, des affaires de toilette et de la nourriture que nous portons au Resto du Cœur à côté pour les plus démunis. Enfin, nous portons, c'est Teresa qui porte. L'ordre chronologique, à l'issue de ce culte, vous êtes invités à rester assis quelques instants pour écouter Frédéric nous donner quelques accords d'orgue, puis quelques instants debout pour prendre un rafraîchissement. Ordre chronologique toujours, nous sommes le premier dimanche du mois, toujours, et donc il y a une cantate de Bach. Alors, c'est à 17h30, je ne donne pas le titre, je vous donne juste le numéro, ce qui suffira à vous l'indiquer, c'est BWV 109, comme ça vous savez parfaitement de quoi il s'agit. Il est prudent, paraît-il, d'être là un peu avant, parce que les mauvaises langues disent qu'il y a plus de monde pour écouter Bach que pour venir le dimanche matin au culte. J'ajoute que j'ai découvert la semaine dernière que la cantate de cet après-midi est annoncée dans Télérama à la fin d'un article sur Bach. Donc, il y aura peut-être encore plus de monde. Les vacances sont terminées, donc nous allons reprendre nos activités. Cette semaine, qu'est-ce qu'il y a ? Mercredi 8 à 20h, l'étude biblique. Vendredi 10 à 19h30, psychanalyse et foi. Le reste, c'est la semaine suivante. Le pasteur Hubach donc, présidera le culte dimanche prochain. Et évidemment, alors c'est un peu plus loin, mais il y a, à la fin du mois, le dernier week-end de novembre, 24, 25, 26 novembre, notre fête annuelle. Vous avez sur les tables, là-bas, quelques petits flyers qui vous donnent tous les détails. Les détails sont aussi au dos de l'amitié. L'amitié, à ce propos, dont je suis le responsable, est envoyée par la poste aux abonnés. Eh bien, ça ne se fait pas par l'opération du Saint-Esprit. Il y a une équipe jeune et dynamique qui met l'amitié sous enveloppe et qui va porter les enveloppes au bureau de poste du 11e arrondissement. Cette équipe est certes dynamique, mais chaque jour un peu moins jeune. Et elles sont deux. Un cinquième et un sixième bras ne seraient pas inutiles. S'il y a des volontaires, je précise, alors ça occupe environ deux heures et demie, un mercredi par mois, en début d'après-midi, sur 10 mois, parce qu'il n'y a pas d'expédition en juillet ni en août. Voilà. S'il y a des volontaires, vous... J'ai dit quoi ? Oh, non, c'est mardi, c'est l'émotion. S'il y a des volontaires, ils peuvent se présenter, par exemple, à Nicole Kraft, ici présente. Levez la main. Voilà, c'est elle. Ou à Marie-Catherine qui va passer parmi vous, ramasser votre offrande. D'autres annonces ? Oui, Madame la Présidente.
Deux petits mots sur la vie de notre paroisse. Tout d'abord, un appel au peuple et aux bonnes volontés, parce qu'on est, par rapport à notre budget annuel, tout à fait en face pour ce qui concerne les dépenses, qui sont plutôt inférieures à ce qu'on avait prévu, mais nettement en retard pour ce qui concerne les offrandes nominatives et donc les recettes. Donc je vous invite à faire vos chèques, à les envoyer, de façon à ce que notre trésorier, qui va refaire un point au mois de novembre, soit un petit peu plus satisfait de l'état actuel de nos finances. Deuxième sujet de fond également, vous savez que notre pasteur Vincent Hubach, qui est actuellement en vacances et qui revient demain, nous quittera pour une autre paroisse le 1er juillet 2018. Nous sommes donc avec le conseil presbytéral en phase de recherche d'un nouveau pasteur. Sachez que nos recherches sont actives, que bien entendu on est tout à fait d'ailleurs à l'écoute de vos demandes ou de vos conseils si vous entendez parler d'un pasteur qui pourrait convenir. C'est une recherche qui est longue et très intéressante. Vous allez probablement écouter de temps en temps pendant l'hiver des pasteurs que nous inviterons pour que vous puissiez les écouter. Puis de notre côté, nous allons également en écouter plusieurs, puisque nous avons à l'heure actuelle déjà une courte liste de candidats potentiels. Voilà, donc on vous tiendra au courant, bien entendu, régulièrement de cela. Mais n'hésitez pas à nous demander, à nous questionner au fur et à mesure de l'hiver sur ces recherches. Autre chose, on sait que nous aurons de toute façon une année de vacances pastorales entre juillet 2018 et juillet 2019. Et nous avons à cet égard une bonne nouvelle, puisque nous aurons l'aide pendant toute cette année d'une personne qui s'appelle Catherine Axelrad, qui est une personne qui a fait des études de théologie, qui n'est pas pasteur, puisqu'elle n'a pas tout à fait terminé ses études. Néanmoins, elle fait office de pasteur actuellement depuis 3 ans dans la paroisse de Choisy-le-Roi. Et elle nous a proposé d'effectuer une mission gratuite, en plus, qui est tout à fait intéressant, encadrée bien entendu par la région, de façon à nous aider à passer le mieux possible cette année de vacances pastorales entre juillet 2018 et juillet 2019. Je vous dis ça parce qu'elle viendra prêcher et se présenter le 3 décembre prochain au culte. Donc vous aurez l'occasion de faire la connaissance de Catherine à ce moment-là.
Nombre lots à gagner. Et c'est une bonne œuvre. Eh bien, puisqu'on parle d'argent, ça va être le moment de l'offrande. Notre pasteur, Vincent Hubach, dit toujours « L'Église ne fait pas la manche. L'offrande, c'est un moment liturgique aussi important que les chants ou les prières. Elle permet à l'Église de vivre, de faire connaître la parole et d'aider les plus démunis. » Pendant l'offrande, donc, je vous invite à vous lever et à chanter le psaume 47 pour finir sur un rythme un peu plus enlevé. Psaume 47. Nous entrons dans le moment de l'intercession. Notre Père, nous te prions pour celles et ceux qui ont faim. Fais-nous découvrir la joie du partage. Nous te prions pour les immigrés et les exilés. Prépare-nous à les accueillir avec toutes leurs différences. Nous te prions pour ceux qui sont seuls. Conduis-nous à leur rencontre. Nous te prions pour les prisonniers. Rappelle-nous qu'ils ont droit au respect. Nous te prions pour les malades, inspire-nous de leur offrir notre appui. Nous te prions pour celles et ceux qui exercent l'autorité dans le monde, inspire-leur de vouloir le bien du plus grand nombre et non celui de leur clan ou de leur parti. Nous te prions aussi pour ceux que nous te nommons dans le secret de nos cœurs. Et nous voulons te redire tous ensemble, c'est pas l'habitude ici, mais moi j'aime bien qu'on le fasse tous ensemble, et debout, s'il vous plaît, la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Vous recevez la bénédiction de la part de Dieu. Nous allons quitter ce temple, retrouver la vie quotidienne, nos habitudes, nos joies, nos soucis. Annoncez partout la bonne nouvelle de la grâce et du salut. Que le Seigneur de la paix vous accompagne et vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière.